Chapitre 21e. Détails, mort de M. Boudin, espoir trompé, privation, effet du délire, un miracle nous sauve, nous sommes à terre. Oui, mais notre frêle canot à clin, long seulement de 9 pieds et surchargé outre mesure par le poids excessif pour lui de 6 hommes, était-il capable de résister à la moindre agitation de la mer? Un grain presque insensible n'était-il pas plus que suffisant pour nous faire chavirer? Hélas oui. Aussi notre découragement atteignait jusqu'au désespoir. Ce puissant motif d'angoisse n'était pas le seul qui nous accabla. Personne à bord de notre canot ne connaissait l'atterrissage de la côte orientale de Zanzibar, vers laquelle nous nous dirigions. Le capitaine, le second et moi, nous nous rappelions bien, il est vrai, quoique confusément, d'avoir remarqué sur la carte que cette partie de l'île, peu fréquentée par les navires, avait vers son milieu une échancrure où débouchait une petite rivière. Là s'arrêtaient tous nos renseignements. On conçoit qu'avec des données aussi peu certaines, notre arrivée nous présentait presque autant de dangers que le voyage lui-même. En effet, n'était-il pas probable, en supposant toutefois que le temps fût constamment beau et que les vents du sud-est ne cessassent pas de régner pendant tout le cours de notre navigation, que nous nous briserions en abordant contre les récifs qui entourent, comme une ceinture de granit, l'île de Zanzibar? Nous n'avions plus à attendre qu'une longue agonie terminée par une mort cruelle et violente. Lorsque nous avions abandonné la Doris, le grain blanc qui avait chaviré notre malheureux brick était tout à fait passé, et il faisait un grand calme. Le matelot Ducasse et le maître d'équipage Fleury prirent les avirons jusqu'à extinction de force. Nous les remplaçâmes, le jeune Fleury et moi. Nous réglâmes ensuite nos travaux et nous prîmes nos tours de rôle. Comme nous nous trouvions 6 dans le canot, notre temps de repos n'était pas tout à fait double de celui de la nage, car il fallait toujours un homme au gouvernail. Chacun y restait 1 heure. Bientôt la nuit nous enveloppa de ses ombres. La lune nous éclairait de ses pâles rayons. Pas le moindre souffle d'air ne ridait la surface des eaux. Ce calme et ce silence de la nature contrastaient d'une façon si étrange avec notre position qu'ils nous impressionnèrent plus vivement peut-être que ne l'eût fait le bruit lointain du tonnerre ou l'approche de l'orage. À peine échangeâmes-nous, jusqu'au lendemain matin, quelques paroles indispensables. Le son de notre voix, je ne puis me rendre encore compte de cela aujourd'hui, nous était pénible à entendre. Le lendemain matin, 15 mars, le soleil se leva dans un horizon sans nuages et la brise tomba tout à fait. Comment pouvoir sinon rendre, cela est impossible, mais au moins esquisser de manière à le faire deviner, le triste spectacle que nous offrions alors? Comment peindre ce petit canot, point noir et presque imperceptible, se mouvant lentement, comme un insecte à peine visible dans l'immensité de l'océan? Ces hommes pâles, défaits, en proie à toutes les terreurs, que quelques planches minces et à peine retenues ensemble séparent seules de l'abîme, tandis qu'un soleil de feu, versant sur leur tête des rayons de lave, enflamme leur cerveau et brûle leur corps. Et quel cadre à ce tableau, un horizon sans bornes. Le découragement qui s'était emparé de nous avait aussi, en bien peu de temps, changé nos caractères. Ne pouvant nous en prendre à Dieu de notre malheur, et soulager par des imprécations notre colère, car à défaut de religion, la peur et la superstition nous rendent lâches et rampants devant la Providence, dont nous craignons la vengeance, nous ne nous adressions que des paroles dures et blessantes. Le moindre mot, le moindre geste, quelque insignifiant et inoffensif que fût ce geste ou ce mot, devenait pour nous un sujet de querelle. Nous nous toisions avec des regards pleins de rage, et à chaque instant nous étions sur le point d'en venir aux mains, et cependant, n'était-ce pas le moment de nous réunir dans une communauté de pensées, de nous appuyer, de nous encourager les uns les autres? Rien ne rend l'homme méchant et implacable, je pus me convaincre de cette triste vérité dans cette circonstance solennelle, comme l'infortune et la peur. Vers midi, M. Boudin, peu accoutumé à la fatigue, d'une complexion fort délicate, et qui, je ne sais pour quel motif, avait eu l'imprudence de s'embarquer sans chemise dans le canot, lors du naufrage de la Doris, probablement, sans doute, afin de pouvoir plus facilement se sauver à la nage, attrapa sur tout le corps un coup de soleil si violent qu'il fut obligé d'abandonner les rames. Nous le couchâmes au fond du canot et Ducasse prit sa place. Enfin, cette longue journée, digne d'être décrite dans l'enfer de Dante, finit et la rosée de la nuit apporta un léger soulagement à nos souffrances. Nos provisions de bouche, dont je n'ai pas encore parlé, se composait de 20 bananes. Jusqu'à ce moment, nous avions résisté au désir d'y toucher. Mais, épuisés alors et n'en pouvant plus, nous fûmes obligés de les entamer. Après une discussion assez aigre et irritante, nous convînmes d'en prendre chacun d'eux. Le capitaine fut chargé, car le plus futile motif était, je le répète, devenu un sujet de discorde pour nous, de les distribuer au hasard et sans les choisir. Je ne parlerai pas de l'avidité avec laquelle nous nous jetâmes sur cette maigre nourriture. Le lecteur la concevra sans peine. Chacun de nous garda en réserve les pelures coriaces et filandreuses de ces deux bananes. Quant à M. Boudin, alors en proie à une fièvre violente, il n'eut point part à la distribution. Le 16 au matin, le soleil qui la veille avait disparu dans un horizon sans tache se leva, rouge comme du sang, sur un ciel enluminé, dans la direction de l'est, par des masses de nuages dorés et brillants qui se dirigeaient lentement vers l'ouest. C'était là un indice de vent ou de pluie, pourvu que ce ne fût pas le présage d'un orage. Le vent pouvait, quoique cela ne fût rien moins que certain, nous sauver. La pluie apporterait un grand soulagement à nos souffrances, mais l'orage, quelque passager et léger qu'il fût, nous perdait. Les yeux fixés sur l'horizon, nous étions partagés entre le sentiment de la crainte et celui de l'espérance. Comment peindre le bonheur que nous éprouvâmes lorsqu'après une demi-heure d'attente pleine d'angoisse, nous vîmes les nuages amoncelés sur notre tête donner passage à une forte pluie sans orage? Nous nous empressâmes de réunir nos 5 chemises avec de la ficelle, puis, les attachant à un aviron et en formant une espèce de hunier que nous guidâmes à la tête d'une rame élevée en guise de mât, nous pûmes avancer en nous reposant un peu. La pluie qui ruisselait sur notre corps nous procurait une sensation de bien-être inexprimable. La tête tournée vers le ciel, nous recevions avidement les gouttes de pluie. Plusieurs d'entre nous, nous trouvant ce secours insuffisant, léchaient les parois mouillées du canot. Malheureusement, cela dura peu. Bientôt, le soleil chassa devant lui les nuages et la pluie cessa tout à fait. Nous défîmes alors notre informe voilure, c'est-à-dire nos chemises cousues ensemble, et les pressant avec force, nous en obtînmes à peu près de pintes d'eau que nous recueillîmes dans un chapeau. La fraîcheur que ces vêtements donnèrent à notre corps lorsque nous les revêtîmes de nouveau nous procura pendant tout le reste de la journée une force et une vigueur que nous n'espérions plus posséder. Quant au pauvre Boudin, c'était tout autre chose. Son état, loin de s'améliorer, ne faisait qu'empirer. Il était toujours en proie à un violent accès de fièvre. Vers la tombée de la nuit, un événement auquel je ne songeais guère manqua de nous être fatal. L'auteur en fut Ducasse. Ce matelot, fort, vigoureux, et qui jusqu'alors avait montré assez de patience et de courage, fut saisi tout à coup par un délire furieux. Jetant loin de lui son aviron, il se dressa violemment sur son banc, et s'écriant qu'il apercevait une belle prairie couverte de marguerites, il voulut s'élancer à la mer. Par bonheur, nous eûmes le temps de nous précipiter sur lui et de le retenir au moment où il allait accomplir son fatal projet. Seulement, la lutte que nous eûmes à soutenir contre lui fut si longue, si acharnée, qu'elle nous fit perdre une partie de nos forces. Enfin, nous parvînmes à le coucher au fond du canot, à côté de M. Boudin. Une fois maître de lui, il nous restait à rattraper l'aviron que le malheureux avait, pendant son accès de délire, jeté au loin dans la mer. En vain cherchâmes-nous, pendant longtemps, avec une attention perplexe et soutenue, l'aviron. Nous fûmes plus d'une demi-heure avant de l'apercevoir, que l'on juge de notre anxiété et de notre désespoir. À cet aviron, à quelle extrémité étions-nous réduits, était attaché notre sort? Comment, en effet, si nous ne parvenions pas à le retrouver, continuer notre navigation? Ce fut le capitaine qui le premier découvrit, bercé à 20 pas de nous par la vague, l'aviron si désiré. Nous nous dirigeâmes vers lui en godillant, et nous ne tardâmes pas à nous en emparer. Cette seconde journée, si elle ne nous fut pas, à cause du calme, bien favorable, eut cependant cela d'heureux, grâce sans doute au soulagement que nous avait apporté la pluie, qu'elle fit cesser l'irritation qui régnait entre nous, et que nous commençâmes à nous regarder sans haine et sans colère. Vers le milieu de la nuit, Ducasse, rafraîchi et calmé par plusieurs heures de sommeil, se leva complètement, remis de son espèce d'abandon de fièvre chaude, et reprit sa place sur son banc de rameur. Le jour suivant, c'est-à-dire le 17, le soleil se leva, comme la veille, splendide et radieux. Aucun indice de brise ne se voyait à l'horizon. ce ne fut que vers les 11 heures du matin que le vent commença à se faire sentir et nous vint un peu en aide. Seulement, depuis quelques heures, la chaleur avait été telle que le malheureux Boudin était à la dernière extrémité. Sa force de volonté, trop tardive en lui, chercha en vain à prendre le dessus sur la souffrance qui l'accablait. Bientôt il se mit à pousser des cris déchirants. « Je ne veux pas mourir » s'écria-t-il avec désespoir. « Je ne veux pas mourir encore. Au secours, sauvez-moi » Puis s'arrêtant, bientôt épuisé, il reprenait peu après d'une voix que l'inflammation de sa gorge rendait à peine intelligible. « Pour l'amour du ciel, de l'eau, de l'eau. Mon estomac est en feu. De l'eau, vous dis-je, ou je vous tue tous !» Plusieurs fois, animé par la fureur, il tenta de se relever, mais à chaque effort, sa tête, qu'il soulevait à peine, retombait lourdement dans le fond du canot. Du peu d'eau que nous avions recueilli la veille, il ne nous restait plus une seule goutte. Ne pouvant donc nous rendre à la prière de l'infortuné moribond, nous cherchions à tromper son courage. « Allons, un peu de patience, lui disions-nous, encore quelques heures et nous serons à terre. Alors vous boirez tant que vous voudrez, et quelques heures de repos compléteront bientôt votre guérison. » Le pauvre Boudin entendait toujours nos paroles, mais il était devenu trop faible pour pouvoir nous répondre. Seulement, nous voyions bien, à son air d'incrédulité, qu'il n'ajoutait pas foi à nos généreux mensonges. Enfin, après une horrible agonie qui dura près de 2 heures, il se tordit dans un suprême effort, comme s'il eût été atteint par la flamme, se releva presque debout et finit par retomber mort. Nous étions tellement malheureux nous-mêmes que cet événement ne nous causa, pour ainsi dire, aucune émotion. À quoi bon nous apitoyer sur le sort de ce malheureux? Ne devions-nous pas bientôt finir comme lui? Je dois dire à notre louange que nous n'hésitâmes pas une seconde à jeter son cadavre à la mer. Cependant, nous subissions les angoisses de la faim avec une telle violence que, réellement, nous eussions été excusables d'arrêter un moment notre esprit à une pensée épouvantable, hideuse, que je n'ose ni ne veux rapporter ici, et dont l'exécution a jeté un souvenir et une ombre si terrible sur l'avenir des survivants du radeau de la Méduse. La journée du 17 fut pour nous une longue torture. Nos mains enflées et couvertes d'ampoules par leurs contacts trop répétés avec les rames nous apportèrent de nouvelles souffrances. Une légère pluie qui tomba pendant quelques minutes, si elle ne ranima pas notre courage, car du courage nous n'en avions plus, nous permit cependant d'éviter le délire qui déjà commençait à s'emparer de nous. Un peu avant le coucher du soleil, 2 poissons volants pesant chacun 5 à 6 onces tombèrent de notre canot et nous les dévorâmes avec avidité. Le 18, 4e jour depuis notre embarquement dans le canot, le jeune Fleury et Ducasse commencèrent à donner des signes non équivoques de délire. Heureusement que leur folie prit un cours pacifique. Si elle se fût produite en violence et en fureur, il nous eût été impossible, tant nous étions faibles, d'opposer la moindre résistance à leur dessein. C'en eût été fait de nous. Le jeune Fleury avait une idée fixe. « Mes amis, nous disait-il en pleurant, et sans savoir seulement à qui il s'adressait, car il ne nous reconnaissait plus, « mes amis, je vous en prie, soyez bons garçons et complaisants, laissez-vous mourir pour que l'on vous jette à la mer. Vous n'aurez pas à vous en repentir. Il fait si frais et si bon au fond de l'eau. Allons, un peu de complaisance. Cela allégera le canot, et je pourrai le porter ensuite à terre. De cette façon, nous serons tous sauvés. » Cette idée fixe du pauvre jeune homme provenait probablement de la joie égoïste et cruelle que nous avions éprouvée et exprimée de la mort de M. Boudin, en nous apercevant qu'une fois son cadavre jeté à la mer, notre embarcation avançait avec plus de facilité. Quant au bordelais Ducasse, sa folie était toute différente. Se figurant qu'il était berger d'un grand troupeau, il s'impatientait contre ses moutons qui buvaient, disait-il, toute l'eau de la Gironde et allait mettre les navires à sec. Le capitaine Liard se trouvait à peu près dans un état semblable à celui des 2 matelots. Couché sur son banc, il murmurait d'une voix étouffée des nombres et des chiffres. Toutefois, de temps en temps, il nous adressait la parole en nous appelant par nos noms. Le seul homme qui, avec moi, ne fut pas complètement en proie à la folie ou au délire, était le maître d'équipage Fleury. De temps en temps, car nous étions trop faibles et trop découragés pour parler, nous échangeons des regards expressifs, tant pour nous assurer si nous pouvions toujours compter l'un sur l'autre, que pour savoir si quelque idée heureuse ne nous venait pas. Toutefois, vers les 4 heures, je sentis que le brouillard se faisait, si je puis m'exprimer ainsi, dans mon intelligence. Je me rappelle encore, non sans émotion, l'horrible lutte qui s'établit alors entre ma force de volonté et le délire qui commençait à s'emparer de moi. Le délire, mais un délire qui me permettait fort bien d'apprécier les objets qui m'entouraient, et qui se rattachait encore par quelques points à la vie réelle, finit enfin par triompher. Je me trouvais alors dans l'état d'un homme gris d'opium ou de haschich, c'est-à-dire que j'avais la conscience des visions qui m'obsédaient. De temps en temps, je sentais une joie folle, délirante, sans nom, me monter au cœur, car je venais de me rappeler tout à coup que j'avais, comme les oiseaux, des ailes, et que comme eux, je pouvais m'envoler. Une violente chaleur qui partait de la plante de mes pieds pour arriver jusqu'à mon crâne donnait bientôt une autre direction à mon ivresse. Je me figurais que je pesais dans une balance le temps qu'il me restait à vivre et que l'aiguille marquait 2 jours. Vers le soir, cependant, je revins complètement à moi. Mon premier regard fut pour le maître d'équipage Fleury. Il avait les yeux fixes et démesurément ouverts. « Eh bien, Fleury ? » lui demandai-je. « J'ai dormi aussi, lieutenant, » me répondit-il en passant lentement la main sur son front. Ces quelques paroles étaient les premières que nous avions échangées de toute la journée. « Voici la nuit qui va nous apporter un peu de fraîcheur, » lui dis-je. « Reprenons les avirons. Chaque minute d'inaction est une année que nous supprimons de notre vie. Oui, lieutenant. Ah, que les oiseaux sont heureux !» murmura-t-il en me désignant par un faible signe de tête les nombreux goélands qui voltigeaient autour de notre embarcation. « Les oiseaux, Fleury, nous annoncent l'approche de la terre !»« La terre, lieutenant ?» s'écria le maître d'équipage en appuyant sur son aviron. « Est-ce que vous croyez à la terre ? C'est un mensonge, elle n'existe pas !» J'étais depuis à peu près 1 heure occupé à ramer, lorsque je sentis que ma faiblesse me reprenait. Une étrange vision se présentait à mon esprit. C'était mon passé tout entier, et je parle de mon passé à partir de ma plus extrême jeunesse, qui se déroulait devant moi. Dans cette revue rétrospective, pas 1 heure, pas 1 minute, pas 1 événement, quelque puéril, insignifiant ou banal qu'il eût été, qui ne se reproduisit avec une merveilleuse fidélité. Je lisais dans ma vie comme dans un livre, je la voyais comme dans un tableau. Il me serait impossible de dire, même approximativement, le temps que dura cette espèce de lucidité surnaturelle. Lorsque je revins à moi, je fus surpris de l'inaction de Fleury qui se trouvait à l'aviron de l'arrière. Le maître d'équipage, la tête inclinée en dehors du canot, était immobile. Je crus qu'il était mort. Je le rejoignis, non sans peine, et le secouant par l'épaule, je l'appelai par son nom. Que l'on juge de mon étonnement lorsque, se retournant tout à coup vivement vers moi, il me jeta ses bras autour du cou et m'embrassa avec transport. « Ah, lieutenant, entendez-vous ? » me dit-il d'une voix étouffée par des larmes. « Nous sommes sauvés. Voici la terre. » « Je n'entends rien que le murmure de la mer, » lui répondis-je, persuadé que le malheureux était retombé dans le délire. « Oh, ce bruit n'est pas causé par le mouvement ordinaire des vagues, lieutenant, c'est celui d'une barre. » À ce mot, qui me montrait que le maître d'équipage jouissait d'un peu de raison, je ne puis dire tout ce que j'éprouvais. Je crus que j'allais succomber à la joie. Toutefois, l'idée qu'il pouvait bien se tromper modéra bientôt mes transports, et je me penchai avidement, à mon tour, en dehors du canot. Fleury avait dit vrai, ou du moins je partageais son illusion, car je distinguais aussi le bruit produit par la vague déferlant sur le rivage. « Nageons, Fleury ! » m'écriai-je en sentant une force inouïe circuler dans mes membres. « Nageons !» Fleury, pour toute réponse, appuya vivement sur son aviron, et je l'imitai sans perdre de temps. Jamais notre canot n'avait été aussi vite. À mesure que la distance qui nous séparait de la terre diminuait, nos incertitudes se dissipaient, car le premier moment de notre folle ivresse passée, nous n'avions pas tardé à retomber dans le doute. « Capitaine, Ducasse, Fleury !» m'écriai-je en abandonnant mon aviron. « Revenez à vous, mes amis, voici la terre !» À ce seul mot de terre, mes 3 compagnons se levèrent simultanément et comme par enchantement. Ce mot magique avait suffi pour les rappeler à la raison. Une fois que je leur eus fait part de la découverte du maître d'équipage et qu'ils se furent assurés eux-mêmes par un examen attentif de sa réalité, ils éclatèrent en sanglots. Pourquoi ? Je l'ignore. Le bonheur qu'ils ressentaient était probablement trop fort pour leur faiblesse. « Mes amis, leur dis-je, Fleury et moi, nous n'en pouvons plus. Remplacez-nous aux avirons. » Fleury jeune et Ducasse s'empressèrent de se rendre à ma prière, et ces hommes, qu'il y avait à peine de cela quelques minutes, étaient incapables de soulever leur tête, firent voler bientôt après, rapide et légère, notre embarcation sur les flots. À chaque coup d'aviron qu'ils donnaient, le sang portait par les crevasses de leurs mains. Mais insensibles à la douleur, ils continuaient leur tâche avec ardeur et sans prendre de repos. « Pourquoi donc nous réjouir ?» s'écria tout à coup le capitaine qui se tenait à la barre. « Savons-nous où nous allons aborder ? L'île de Zanzibar est entourée de rochers de récifs, nous serons broyés. Et puis, n'entendez-vous pas les rugissements des bêtes féroces ? Quand bien même nous pourrions descendre à terre, à quoi cela nous avancerait-il ? À être dévorés ? Ah, n'importe, allons toujours. Cela doit être si doux de sentir, ne serait-ce que pour une minute, son pied s'appuyer sur la plage. » À ces paroles, aussi imprudentes que maladroites du capitaine, paroles qu'il a prononcées avec une vivacité saccadée et fébrile, Ducasse et le jeune Fleury, déjà épuisés par des efforts trop violents, cessent de ramer. « Capitaine, lui dis-je à demi-voix, taisez-vous, au nom du ciel, ne découragez pas nos hommes, ou nous sommes perdus. Mais quoi, ne m'entendez-vous pas ? Voyons, répondez !» Monsieur Liard, qui, pendant que je lui parlais, était resté immobile, se leva tout à coup subitement. « Si je vous entends, me dit-il, je crois bien. Vous m'apprenez que nous sommes arrivés. Par Dieu, je sais cela aussi bien que vous. Mon Dieu, que de monde sur le quai pour nous recevoir. Ils vont tous vouloir nous inviter à dîner. Allons-nous boire et manger ? Mes amis, je suis à vous. Attendez, je vais vous lancer une amarre. » Monsieur Liard, après avoir prononcé ces paroles, les fait suivre d'un geste comme s'il jetait l'amarre annoncée. Malheur, un clapotement retentit sur la mer. C'est notre gouvernail qui l'a démonté et qu'il vient d'envoyer avec la force que lui donne le délire à 10 pas de nous. Que faire ? Que devenir ? La lune n'est pas encore levée. Une profonde obscurité nous enveloppe. Comment retrouvons-nous ce gouvernail dont nous ne pouvons nous passer ? « Nous sommes perdus, lieutenant, » me dit le maître d'équipage. « Oui, Fleury, perdus. À quoi bon lutter contre notre mauvaise chance ? Elle est, vous le voyez, supérieure à notre courage. Ne voulez-vous pas, lieutenant, vous remettre aux avirons ? Ma foi, non, c'est inutile. Jusqu'à présent, nos efforts n'ont abouti qu'à augmenter nos souffrances. Je préfère le repos à la lutte. Que la Providence fasse de moi ce qu'elle voudra. Ma destinée est écrite, qu'elle s'accomplisse. « Croyez-vous, lieutenant ? » me demande le jeune Fleury, « que la côte soit infestée de bêtes féroces ? » ?»« Je l'ignore, ça m'est égal. »« Moi, mon avis, reprend le matelot, est que nous attendions ici jusqu'au jour sans bouger. Nous pourrions, de cette façon, aborder avec moins de danger. »« Moi, je vais aborder de suite, entends-tu ? » s'écria Ducasse en reprenant son aviron. « Je m'y oppose, » dit le jeune Fleury. « Ah vraiment, c'est ce que nous allons voir. » Le Bordelais, furieux, se lève de son banc et va pour se jeter sur le jeune frère du maître d'équipage. Nous sommes obligés de nous précipiter entre eux et de les retenir. « Cessez de vous disputer pour un aussi frivole motif, mes amis, » leur dis-je. « Ni toi, Ducasse, ni toi, Fleury, vous ne pouvez vous opposer aux événements et changer en rien la marche du canot. Comment voulez-vous que sans gouvernail nous nous dirigeons avec certitude vers la plage ? Et comment, d'un autre côté, nous serait-il possible de résister au courant qui nous entraîne ? Attendons !» En effet, un courant très rapide donnait alors une assez grande vitesse à notre embarcation. Pendant près d'une heure, immobiles, silencieux, absorbés par nos pensées, nous ne prononçâmes ni les uns ni les autres une seule parole. Le capitaine fut le premier, son hallucination passée, qui rompit ce silence. Il nous demanda pourquoi nous ne nageons plus, et je lui appris l'accident qui nous avait fait éprouver pendant son court accès de délire, c'est-à-dire la perte de notre gouvernail. « Qui sait si ce n'est pas un bonheur que nous n'arrivions pas cette nuit ?» me répondit-il. « Car vous le savez, Garneret, l'île de Zanzibar ne possède qu'une espèce de baie, large à peine de quelques toises, et il faudrait une chance merveilleuse, impossible, inouïe, pour que le hasard nous eût justement conduit à cet endroit. » Nous devons donc compter débarquer sur une côte inhabitée et dangereuse, pour ne pas dire mortelle. Oh, je le sens, nous sommes perdus. » Le capitaine achevait à peine de prononcer ces paroles, quand le chant clair, distinct et retentissant d'un coq vint frapper nos oreilles. Nous poussâmes un cri de joie, nous touchions donc presque à la terre, et à une terre habitée. Je tombai à genoux, et j'adressai de ferventes actions de grâce au ciel. Mes compagnons pleuraient, Notre embarcation, qui, je l'ai déjà dit, avait depuis quelques instants pris une grande rapidité, se ralentit alors d'une façon fort sensible. Nous n'avancions presque plus. Il était près de 3 heures du matin. Bientôt, la lune sortit radieuse derrière un rideau de nuages et vint éclairer de ses pâles rayons les ténèbres dans lesquelles nous étions plongés. « Mes amis, » m'écriai-je avec effroi, en remarquant que la mer, d'une couleur sombre et noire, ressemblait à un lac de bitume en fusion, « nous sommes probablement sur des bas-fonds et nous allons toucher. Attention !» J'achevais à peine de prononcer ces paroles que notre canot reçut un choc assez violent. Nous poussâmes un cri simultané de détresse. « Mon Dieu, ayez pitié de nous » m'écriai-je en levant les yeux vers le ciel. Que l'on essaie de se faire une idée de la sensation immense, inouïe, surhumaine de joie que je ressentis lorsque mon regard rencontra au-dessus de ma tête les cimes ondoyantes et touffues d'une longue rangée de cocotiers. C'était le reflet de ces arbres qui changeait pour nous la mer de couleur. Quant au choc reçu par notre embarcation, nous ne fûmes pas longtemps à en chercher la cause. De nombreuses perches attachées ensemble et symétriquement rangées nous apprirent bientôt que nous étions tombés au milieu d'une pêcherie. Ah, Dieu, dans sa colère, prolongerait ma vie au-delà du terme de l'existence humaine, que jamais je n'oublierai le bonheur que je ressentis alors. « Eh bien, capitaine, dis-je à M. Liard, nous sommes donc sauvés. »« Oui, Garneret. Mais non, c'est impossible. Pourtant, voilà bien la terre. Oh, j'ai peur de rêver. » Le fait est que notre arrivée dans cette petite baie, la seule qui se trouva sur la côte entière de l'île de Zanzibar, présentait un hasard si extraordinaire, si inouï, un fait tellement merveilleux que c'était à n'y pas croire. 5 minutes après notre rencontre de la pêcherie, notre canot échouait doucement sur la berge et m'élançant avec une vigueur que ma faiblesse rendait inexplicable, je foulais enfin cette terre que je ne comptais plus revoir. Le maître d'équipage Fleury et Ducasse me rejoignirent aussitôt. Quant à M. Liard et au jeune Fleury, ils étaient si exténués tous les deux que nous fûmes obligés de les aider à descendre sur le rivage. « À manger, Garneret, » me dit M. Liard, « ou je meurs. »« Je vais à la recherche, capitaine, » lui répondis-je, « un peu de patience et ne craignez rien. Après le miracle que la Providence vient d'accomplir en notre faveur, tout doit nous réussir. » Ducasse et Fleury me déclarèrent qu'ils étaient prêts à m'accompagner. J'acceptai leur concours avec empressement. Nous couchâmes au pied d'un arbre, M. Liard et le jeune frère du maître d'équipage, puis nous nous mîmes en route sans plus tarder. J'oublie de mentionner qu'avant d'aborder la terre, c'est-à-dire pendant le court trajet de la pêcherie à la rive, nous avions bu à grands traits, quoiqu'elle fût un peu saumâtre, de l'eau de la rivière, et que cela nous avait fait le plus grand bien. Après avoir assuré de nouveau nos deux compagnons sur notre absence, que nous leur promîmes d'abréger autant que faire se pourrait, Fleury, Ducasse et moi, marchant tous trois de front pour embrasser le plus d'espace possible et nous assurer par conséquent plus de chance, nous commençâmes notre voyage d'exploration. Depuis 4 jours, qu'en proie à la faim, à la soif et à la chaleur, nous n'avions eu pour nous contenir que notre étroite embarcation. Nos membres s'étaient tellement engourdis et si affaiblis que nous avancions comme si nous eussions été gris, c'est-à-dire en trébuchant. Chaque pas que nous faisions nous occasionnait une vive douleur. Mais nous étions loin de nous plaindre, et cette douleur, en nous rappelant que nous touchions enfin la terre ferme, était plutôt pour nous une volupté qu'une souffrance. Les parfums dont l'air était imprégné, et que nous aspirions avec délices, contribuaient encore à notre ivresse. Ah, si le bonheur poussé à ses dernières limites pouvait tuer, comme le fait la douleur, cette heure eût été la dernière de notre vie. Il y avait à peu près 10 minutes que nous avions quitté le rivage, lorsque Ducasse, qui marchait de quelques pas en avant de nous, nous appela. « Voyez, mes amis, » nous dit-il lorsque nous l'eûmes rejoint. Le Bordelais, en parlant ainsi, étendait sa main vers un vaste champ semé de maïs, dont les épis jaunis, éclairés par la lune, ressemblaient de loin à de gros glands d'or. À cette vue, je poussai un cri de joie, et je m'élançai vers cette terre promise. Mais, ô contrariété, à peine avais-je pris mon élan, que je me sentis arrêté par une espèce de palissade ou de barrière qui entourait le champ. Quoique cet obstacle n'eût certes pas été bien difficile à franchir pour un homme dans son état ordinaire, j'étais tellement affaibli que je restais pendant quelques secondes à le considérer avec effroi, comme si c'eût été une forteresse que j'eusse dû prendre d'assaut. Enfin, j'allais me décider à l'escalade, quand tout à coup les aboiements furieux d'un chien retentirent à une 20aine de pas de nous. Nous nous regardâmes avec épouvante. En effet, nous n'avions seulement pas un bâton pour nous défendre. Et puis, eussions-nous été armés, que notre faiblesse nous aurait empêchés d'opposer la moindre résistance, même à une attaque insignifiante. Que l'on juge combien notre position était critique et curieuse. Devant nous, ces épis de maïs qui nous attiraient invinciblement et que nous dévorions de nos regards. Plus loin, un animal, peu dangereux sans doute, et dont un enfant ne se fût pas inquiété, nous tenant en respect et nous inspirant assez d'effroi pour nous donner la force de combattre la tentation insensée que nous causait la perspective de pouvoir assouvir notre faim. Ce spectacle eût été grotesque pour un spectateur indifférent, cependant combien nous souffrions. Le premier moment d'effroi passé, nous finîmes par remarquer que les aboiements du chien continuaient à se faire entendre dans la même direction et ne changeaient pas de place. Nous conjecturâmes de cela que l'animal était attaché, et nous enhardissant peu à peu, nous finîmes par nous décider à tenter l'aventure. Ah, quelle fut notre joie, lorsque nous écrasâmes sous nos dents, à moitié déchaussées, le premier grain tendre et laiteux de ce maïs, si ardemment convoité. Je ne me rappelle pas que de ma vie le sens du goût m'ait procuré, je ne dirais pas une pareille jouissance, mais bien un semblable bonheur. Notre faim, non pas apaisée mais au moins calmée, nous songeâmes à nos deux compagnons qui nous attendaient et qui devaient compter les secondes pendant notre absence. Nous fîmes pour eux une large provision de maïs. Nous nous retirions lorsque mon pied glissant sur un corps assez volumineux et élastique, je manquais de tomber. Ma première action fut de me rejeter vivement en arrière, car toute chose inconnue était alors pour nous un sujet de crainte. Que l'on se figure, si l'on peut, quelle fut ma joie, lorsque je m'aperçus que cet objet, dont le contact m'avait d'abord si fort effrayé, n'était autre chose qu'une pastèque ou melon d'eau. Me jeter sur le fruit savoureux, déchirer sa fragile écorce avec mes ongles et mes dents, boire à longs traits son jus glacé et parfumé, manger avidement sa chair, fut pour moi l'affaire de quelques secondes. Ducasse et Fleury, aussi heureux de leur côté que je l'étais du mien, car nous étions tombés au beau milieu d'une plantation de pastèques, et nous n'avions que l'embarras du choix, s'en donnaient à cœur joie. Je compterai toujours au nombre des bonnes actions que j'ai pu faire pendant ma vie le courage qu'il me fallut déployer pour m'arracher à cette terre promise. Mais nos compagnons, mourant d'inanition à quelques pas de nous, pour ainsi dire, avaient reçu notre parole que nous ne les abandonnerions pas. Nous devions remplir nos engagements. Toutefois, avant de m'éloigner, je ne pus m'empêcher de cueillir encore quelques pastèques, que je fis disparaître avec la même promptitude que les premières. Lorsque nous arrivâmes chargés de nos provisions à l'endroit où nous avions laissé le capitaine et le jeune Fleury, nous trouvâmes nos deux compagnons en proie à une inquiétude et à une impatience qui tenaient du délire. À la vue du maïs et des pastèques que nous leur apportions, ils éclatèrent en sanglots. Un quart d'heure plus tard, couchés tous les cinq sous un amas de feuilles de cocotier que nous avions étendues sur nous pour nous garantir de la pénétrante et dangereuse rosée de la nuit, nous nous endormîmes d'un profond sommeil. C'était le premier moment de repos véritable, c'est-à-dire sans arrière-pensée et sans préoccupation, que nous goûtions depuis 4 jours.